Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Le quart d'heure de santé produite par le docteur Guillaume.
Bonjour.
Bonjour docteur. Alors aujourd'hui, un sujet différent de ceux habituels, la froidure.
Mais c'est le temps extérieur nous permet d'aborder ce sujet aujourd'hui. Nous sommes dépendants pour notre survie des conditions d'ambiance, que ce soit l'alimentation en hiver, la boisson, l'eau et l'atmosphère pour sa teneur en oxygène. Et bien sûr, par la température ambiante.
Alors, quelles sont nos limites de tolérance ?
Nos limites de tolérance thermique sont extrêmement étroites, que ce soit une température extérieure qui est très chaude ou alors qui est très froide. Nous sommes des homéothermes stricts,
ce qui veut dire
que nous avons une température interne qui est constante. Elle est programmée pour que nous ayons une vie à température constante parce que notre machinerie fonctionne à 37 degrés centigrades. C'est notre température centrale. Les variations tolérées en plus ou en moins sont très faibles. La mort par coup de chaleur survient au-delà de 43 degrés de température interne. Et la mort blanche, elle survient vers 28 degrés.
Et la température de neutralité thermique ?
Eh bien, c'est la température ambiante et elle est de grande importance. Elle est de 26 degrés lorsqu'on est tout nu dans l'air, mais elle tombe à 16 degrés. Nous supportons parfaitement bien 16 degrés quand nous sommes habillés en tenue de ville. Et nous survivons plus bas, dans des températures plus basses encore quand nous sommes engoncés dans une combinaison de haute montagne ou dans une polaire. Au-delà de cette température chaude, nous emmagasinons la chaleur, c'est le coup de chaleur. Et en dessous, nous perdons des calories sans en fabriquer suffisamment en compensation, et c'est le refroidissement.
Alors, quand est-ce qu'on a une impression de froid ?
Alors, la sensation de froid, c'est la température cutanée ressentie, et elle varie avec les autres conditions climatiques. La sensation, non pas la température mesurée. L'humidité de l'air accentue la sensation de froid. La vitesse de l'air, le courant d'air, le vent, tout ceci accentue encore la sensation de la vitesse de refroidissement. Les piétons qui traversent le parvis de la cathédrale de Chartres en hiver savent bien de quoi je parle. L'acclimatation et l'aguerrissement accroissent la tolérance dans des limites peu extensibles.
Alors, est-ce que nous produisons, nous, de la chaleur et comment est-ce que nous la produisons ?
Notre production de chaleur, on appelle ça la thermogenèse, vient de toutes les cellules de nos organes. La vie est une combustion lente, disait déjà Lavoisier. Le carburant, c'est l'alimentation, c'est-à-dire les glucides, les protéines, les lipides, et le comburant, c'est l'oxygène de l'air. Nos déchets, ce sont le gaz carbonique, l'urée, l'acide urique et de nombreux autres produits encore. Quant à l'alcool, ce n'est pas un aliment, ce n'est pas un élément constitutif de la matière vivante, il n'est pas stockable, il est détoxifié par le foie et produit alors de la chaleur. Quant à son action vasodilatatrice, elle est notablement observable sur le visage des buveurs, ce qui permet une élimination cutanée accrue. Ainsi donc, la sentence « l'alcool réchauffe » est partiellement acceptable avant la phase de déperdition calorique qui, elle, est importante. Notre dépense de base, c'est-à-dire celle de survie, notre vie végétative, c'est-à-dire le cœur qui bat, le poumon qui respire, le rein qui épure, c'est l'analogue d'un ralenti d'un moteur. Le travail musculaire produit un travail mécanique et de la chaleur. Mais notre muscle est un mauvais moteur. Il est producteur de 25% de travail et de 75% de chaleur. Et ce sont quand même ces deux origines de base et d'activité qui assurent notre homéothermie, notre température constante, notre température obligatoire à 37 degrés centigrades.
Et alors, comment perd-on de la chaleur ?
La déperdition thermique de notre corps se fait par quatre moyens. La conduction, c'est-à-dire par contact, par convection, par l'air qui s'échauffe au contact de notre peau et qui s'en va et qui est remplacé par de l'air froid, et aussi par irradiation. Nous irradions des rayons infrarouges. Et nous avons une quatrième méthode qui est une méthode extrêmement importante, c'est l'évaporation cutanée de sueur et aussi l'évacuation respiratoire de buée. C'est notre quatrième moyen d'élimination de chaleur lorsque nous sommes au-dessus de 37 centigrades de température centrale. Ainsi donc, le refroidissement de notre corps habituellement équilibre notre production de chaleur.
Nous allons faire une pause musicale.
Bienvenue, c'est Joe.
sommes toujours dans l'émission Le quart d'heure de santé, produite par le docteur Guillaume, et nous parlons de la froidure. Et le docteur venait de nous parler de la déperdition thermique. Et vous disiez aussi que les causes de refroidissement corporel sont accidentelles
en règle. Oui. C'est un accident de haute montagne, c'est un ensevelissement sous la neige, c'est un naufrage en mer ou c'est une nuit en short.
Ça dépend si c'est en plein été.
Non, justement, parce que la mer en plein été est à 25 degrés et que nous risquons d'être refroidis et de mourir de froid et non pas de noyade. La mort en mer est une mort de froid et non pas une mort de noyade.
Alors, est-ce qu'il existe une pathologie du froid?
La pathologie locale des organes exposés au froid ou insuffisamment isolés s'étend avec la vasoconstriction cutanée qui cherche à réduire la perte de calories. C'est le doigt mort, c'est la crevasse de la lèvre, c'est la gelure du doigt ou d'orteil jusqu'à l'œdème et la nécrose. La nécrose, ça veut dire la mort d'une partie d'un membre, la mort d'un fragment de membre qui peut mener jusqu'à l'amputation des doigts, des orteils et du nez. Ce furent des pathologies importantes durant la DR de 14-18. Quant à la pathologie générale, c'est le besoin d'activité musculaire, le frisson, la chair de poule, le défaut d'attention, et puis ensuite il y a une période d'agitation, et enfin un engourdissement évolue vers la fibrillation cardiaque qui elle est constamment mortelle vers 26 degrés centigrades et aussi qui entraîne une mort blanche, c'est-à-dire une mort sans lutte et sans souffrance, dit-on.
Oui, c'est ce que disent souvent les alpinistes qui ont subi ça. Oui.
Ont survécu.
Comment se prémunir alors?
Les préventions sont multiples. L'aguerrissement a des effets limités en situation extrême. L'exposition au risque des malades sous alcool, sous médicaments psychiatropes, sous vasodilatateurs et sous bêta-bloqueurs sont contre-indiqués car ils sont vasodilatateurs. Quant à la domotique, elle concerne l'isolation de la maison, les murs, les portes, les fenêtres. Elle comporte aussi la température de l'air, la température des murs, la désaturation de l'humidité de l'air, la chasse au courant d'air. Bref, dans une maison, tout est bon pour accroître le confort. Il faut signaler un point, à savoir que le chauffage inadapté, par exemple un moteur thermique d'un groupe électrogène dans une pièce pour la combustion, pour fabriquer de la chaleur, est un risque d'intoxication par l'oxyde de carbone mortel ou ce qui est pire, cause de séquelles.
Oui, parce qu'on ne le sent pas.
Quant à l'habillement, il fait une barrière entre la peau et l'extérieur. Il reconstitue un microclimat. Il conserve l'air emprisonné entre la peau et le sous-vêtement. La seconde couche vestimentaire emprisonne encore une couche d'air et le vêtement extérieur, imperméable à la pluie, à l'humidité, au vent, isole des intempéries. Antérieurement, les vêtements étaient en pelisse ou en fourrure. C'est la même chose, mais ça dépend de quel sens on les met. Et maintenant, on préfère le coton, la laine et aussi les fibres polaires qui sont extrêmement efficaces. L'habillement doit comporter un bonnet, surtout sur la tête des petits-enfants, qui est une zone de perdition calorique considérable pour eux. Il faut aussi porter un cache-nez, des lunettes adhérentes, qui c'est plutôt une méthode utilisée par les montagnards, les alpinistes, des lunettes adhérentes qui garantissent de la gelée les cornets. Il faut porter éventuellement une ceinture de flanelle et aussi des gants, des bottes. Quant aux crèmes épaisses sur les lèvres, le visage, les mains, elles peuvent compléter les indispensables mesures de prévention des effets du froid. En fait, il est préférable d'éviter l'exposition au froid qui est un facteur de risque incontournable.
Alors docteur, en conclusion.
Eh bien, que faire? On peut passer l'hiver au pays du soleil, sous les cocotiers et près d'une mer chaude. On peut aussi passer l'hiver sous la culotte. Ce sont des solutions. La domotique vous propose 19 degrés dans la maison et 25 degrés au maximum dans la salle de bain.
19 degrés dans la chambre.
Oui, mais on peut descendre dans la chambre plus bas si on
ah
peut.
Bon.
On peut coucher jusqu'à 13, c'est même assez tonique.
Oula.
Mais c'est pour des gens déjà...
Jeunes.
C'est pour les jeunes, voilà. On va dire ça. Et pour les vieux en bonne santé.
Oui.
Voilà. Ainsi donc, la domotique vous propose 19 degrés dans la maison et dans la chambre, peut-être, ou moins, et 25 degrés au maximum dans la salle de bain. Je vous souhaite non seulement une bonne année, mais aussi un bon hiver. Le quart d'heure de santé est diffusé le jeudi à 11h15 et le dimanche à 16h sur Radio Grand Ciel sur 106,8 MHz à Chartres. Et l'émission peut être réécoutée à votre initiative à tout moment sur www.radiograndciel.fr. Amis fidèles, à bientôt sur Radio Grand Ciel, bien sûr.
Jumping James Burton. Jack and I'll be gone.